Les Clairvoyants est un podcast Geekzone dont la production n'est possible que grâce au soutien financier de nos abonnés. Si vous aussi vous voulez soutenir la production de nos podcasts, abonnez-vous sur patreon.com/geekzonefr. Merci. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 89e épisode des Clairvoyants.
Les Clairvoyants.
Before we get started, does anyone want to get out?
Salut, c'est Faskill. J'interromps cette intro des Clairvoyants pour un petit message personnel. Message à l'attention de Kevin Feige. Kevin, les trailers le lendemain d'un enregistrement de podcast, il faut que ça cesse. On a bien rigolé, mais là, ça commence tout doucement à nous emmerder un petit peu. Et voilà, du coup, on va pas pouvoir parler du trailer de She-Hulk dans cet épisode et il va falloir qu'on attende le mois prochain. Et ça nous casse les couilles. Merci Kevin. On se retrouve comme tous les mois pour notre petit podcast sur le Marvel Cinematic Universe, un podcast que j'ai le plaisir de présenter avec mes acolytes Fox et Archeon. Salut les gars.
Salut.
Salut tout le monde.
On n'a pas grand chose côté news ce mois-ci, on va quand même faire un petit peu le tour des annonces côté Marvel Cinematic Universe. On fera bien évidemment une critique de la série Moon Knight et du film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. On fera un petit focus sur Gore, le futur Big Bad a priori de Thor Love and Thunder. Et puis on fera aussi un petit peu de theory crafting sur ce qu'on peut retenir de Moon Knight et surtout de Doctor Strange. Et si on a le temps, mais je doute que ce soit le cas, et puis je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire, on pourra éventuellement peut-être faire des spéculations sur Miss Marvel. Et puis on fera aussi le tour du côté de votre courrier, on écoutera de la musique, on fera un flashback sur un ancien épisode, et je vous propose qu'on y aille sans plus attendre avec les news et la rubrique True Believers.
God, we haven't caught up in a spell, have we? The Avengers broke up, we're toast.
Broke up? Like a band? Like the Beatles?
True Believers, c'est notre rubrique news du MCU. Je vous le disais en ouverture, pas grand chose ce mois-ci, surtout des annonces de tournage qui se terminent. On va commencer avec Doctor Strange in the Multiverse of Madness qui lui fait un gros carton au box-office. Pas vraiment une surprise non plus. Il y a deux jours, je crois, ou c'était encore hier, les chiffres, c'est à peu près 700 millions dans les caisses à l'international. Donc ça va, ça se passe plutôt pas trop mal. On aura bien évidemment l'occasion de donner notre avis sur le film tout à l'heure dans la rubrique I Love You 3000. Et puis on fera bien évidemment un gros débrief côté theory crafting aussi. Guardians of the Galaxy volume 3, le tournage est visiblement terminé. On va rentrer dans la phase de post-prod où probablement la moitié du film va être réécrit. Non, je suis mauvaise langue. Mais c'est vrai que souvent chez Marvel, il y a beaucoup de boulot narratif qui est fait sur le banc de montage. Donc ce serait pas surprenant qu'il y ait peut-être encore des petits changements. Et puis on a appris côté Fantastic Four, d'une part que les producteurs qui ont bossé sur Moon Knight sont apparemment sur le projet en ce moment. En revanche, on a appris aussi, mon petit Fox, que John Watts avait décidé de jeter l'éponge côté MCU. Pour lui, c'est terminé. Et a priori, ouais, ça s'est fait dans de bonnes conditions.
Enfin, ça s'est fait de bonnes conditions, mais c'est compliqué pour lui. Et tant pis, je suis pas malheureux parce qu'il va faire d'autres projets et c'est un bon réal, mais de toute façon, il y a une malédiction sur les Fantastic Four depuis voilà, la Marvel aristocratie a toujours été assez compliquée à gérer au cinéma, n'est-ce pas? Bon, ça nous a donné un Captain America, c'est déjà bien, mais mais ça va être compliqué, quoi. Après, on en parlera dans le débrief Doctor Strange, mais s'il me garde en Reed Richards, je vais pas pouvoir, quoi. Je vais pas pouvoir.
A priori, John Watts bosserait sur un projet Star Wars, une série. Alors, je sais pas si c'est une série télé ou animé. Enfin, en tout cas, il bosse sur un projet Star Wars, visiblement. Donc, je pense qu'il avait envie de faire autre chose. Ou alors, peut-être que le lobbying d'Archeon, après No Way Home, a porté ses fruits et qu'il a décidé d'arrêter les frais. Il s'est dit, moi, je fais plus de films, c'est fini. Je me fais trop insulter sur Twitter.
Je l'ai pas insulté. C'est la faute d'Archeon. J'ai rien contre lui, en plus. Ses films sont bien. C'est juste que je pense qu'il est pas taillé pour les Fantastic Four. Donc, je vais pas dire que je suis content qu'il arrête, mais je pense que c'est un bon choix. Ah. Et la série Star Wars qu'il fait, en plus, qui a l'air plutôt orientée sur
les années 80.
Un ton un peu 80s. Voilà, je pense que ça colle nettement plus à son style, en fait.
Tout à fait. Mais donc, je suis curieux de voir qui va reprendre le boulot de réalisateur sur les Fantastic Four. Pour le moment, on n'a pas encore d'infos. On passe côté série Disney Plus avec Echo et l'arrivée de Devery Jacobs au cast. Alors, Devery Jacobs, si vous avez vu Reservation Dogs, une excellente série produite d'ailleurs par Taika Waititi. C'est elle qui joue le rôle de la nana qui est un peu le chef de la bande, la maman de substitution en fait. Et donc voilà, elle arrive au cast d'Echo. On sait pas trop dans quel rôle. Elle a plus ou moins le même âge que l'actrice principale, donc probablement une amie ou une collègue ou je sais pas, donc aussi une super-héroïne à laquelle je pense peut-être pas. On ne saura ça qu'au moment où ça sort. Il n'y en a pas encore de date de sortie. En revanche, a priori, le tournage aurait commencé il y a 4 semaines. Donc, je ne sais plus combien de temps ils mettent d'habitude sur les séries. C'est quoi, c'est 6 semaines sur une série?
Ça dépend, entre 6 et 8 semaines, selon les phases. Je crois que Loki, ça avait duré 8 semaines. Le premier tournage avait des reshoots. Donc, on peut tabler sur 8 semaines. Et après, c'est un an de réservation, montage et le reste avant la sortie.
Je serais pas étonnant que la série sorte finalement plus tôt que prévu, en fait. Enfin, quoique, on est quand même déjà mai 2022 et ça avait été prévu pour 2023. Ouais, ça sortira, à mon avis, plutôt début 2023.
Ouais, c'est ça.
Alors, on avait parlé déjà de ce projet il y a quelques mois, qui est un projet qui pour le moment n'a pas vraiment de titre, qui est le Untitled Halloween Special. Rien à voir donc avec le Holiday Special des Guardians of the Galaxy, c'est encore autre chose. Et donc, on murmure qu'il s'agirait d'un projet Werewolf by Night, qui est donc un pan des comics pas super connu non plus. On aura peut-être l'occasion d'y revenir un jour dans un focus. Et donc, on a appris a priori que ce serait donc Laura Donnelly qui incarnerait Bloodstone. Alors, j'avais marqué, ça a beaucoup fait rire Thomas, c'est qui dans la conduite, mais oui, la question c'est qui en fait Bloodstone. C'est un comics que vous connaissez, vous, Werewolf by Night, ou bien pas du tout?
Oui, bah, on en a parlé pendant le focus, je pense rapidement de Moon Knight, à mon avis, parce qu'il y est passé quelques fois.
Ouais, ouais.
Mais après, c'est pas non plus un comics à connaître, quoi. Je pense que c'est surtout le titre qui l'intéresse, parce que ça colle avec le Halloween Special, en fait.
C'est ça, parce que c'est Bloodstone, elle fait partie. Bon, Elsa Bloodstone, c'est une chasseuse. Qui est la fille de son père, Ulysses Bloodstone, qui était un grand chasseur. Oui, non, parce que lui, c'était un grand chasseur de monstres, machin.
D'accord.
Et en fait, bon, son père va mourir, il va lui léguer toute sa maison avec ses armes, et puis son équipe aussi, et une pierre magique qui est la Bloodstone. Et Elsa, elle va traquer les méchants, en fait, les méchants vampires, les méchants loups-garous, les méchantes créatures, avec une équipe assez marrante, avec un avocat vampire et son fils.
Elle était dans les Midnight Suns aussi, en fait, elle, si je dis pas de bêtises.
Oui, elle y est passée aussi.
Ouais, elle est passée par les Midnight Suns.
On y revient.
Son équipe, c'est Next Wave, avec Monica Rambeau, notamment.
On y revient en Midnight Suns, hein, avec l'arrivée de Moon Knight, évidemment, c'était une des choses auxquelles on pensait, potentiellement un retour de Ghost Rider, donc.
Ah, Nicolas Cage,
Plein de choses possibles, donc je pense que ça installe un petit peu tranquillement ce monde-là, et visiblement, c'est la direction que va prendre aussi cette série Halloween Special, donc, enfin, ça sera pas une série, du coup, j'imagine que ça sera un one-shot. Donc, à voir ce que ça va donner, et puis on termine cette section news, décidément assez courte, avec des news concernant les dates de sortie de Marvel's et de Ant-Man and the Wasp Quantumania, qui ont donc inversé leur date de sortie. Visiblement, il y a un des projets qui est plus en avance que l'autre, et je pense aussi que peut-être les retards sur Miss Marvel ont pas dû aider le film de Marvels, donc peut-être que voilà, c'est la raison pour laquelle les dates ont été permutées. Et du coup, bah, ça va être l'occasion de faire un petit rappel, vite fait, des dates de sortie, parce que c'est vrai que ça fait longtemps qu'on l'a pas fait. On va commencer côté ciné, donc avec la sortie très prochaine de Thor Love and Thunder, c'est le 8 juillet 2022. Je vous donne les dates US. En France, c'est souvent 2 jours avant, puisque ça sort aux États-Unis le vendredi, chez nous le mercredi, mais c'est pas toujours été... J'ai le souvenir que parfois c'était le mercredi suivant, mais très rarement, donc je ne sais pas. Voilà, sous réserve, on vous donne les dates US, comme ça on en est sûr. Ensuite, il y a Black Panther Wakanda Forever, ce sera le 11 novembre 2022. Ant-Man and the Wasp Quantumania, qui donc est avancé au 17 février 2023. Ensuite, on aura les Guardians of the Galaxy volume 3 le 5 mai 2023, de Marvels le 28 juillet 2023. Et puis, on n'a pas de date pour les films suivants. On a une confirmation confirmation donc, d'un film Fantastic Four, d'un film Blade, on a un projet Deadpool en chantier, on a un Captain America 4 en chantier, on a visiblement un Shang-Chi 2 qui a été confirmé aussi, mais j'avais loupé l'info. On a toujours un projet avec Scarlett Johansson, dont on ne sait rien pour le moment. Il y a bien évidemment toujours l'arrivée des mutants qui est attendue. Et puis, bon, bah, clairement, la fin de Doctor Strange 2 laisse peu de doute au sujet d'un potentiel Doctor Strange 3, donc on peut déjà aussi le rajouter au futur planning. Et puis, côté télé, donc, prochaine sortie de Miss Marvel le 8 juin 2022. She-Hulk, bon, on n'en a pas parlé dans les news, mais apparemment, il y a des rumeurs comme quoi le tournage serait un petit peu compliqué. Donc, normalement, c'est une série qui devrait sortir cette année, mais j'ai bien l'impression que ça va être reporté. On a donc ce Untitled Halloween Special qui est prévu pour le mois d'octobre 2022, le Guardians of the Galaxy Holiday Special pour décembre 2022, et puis ensuite, en non confirmé au niveau des dates, on a Secret Invasion, Ironheart, Armor Wars, la série Wakanda qui n'a pas encore de titre, la saison 2 de Loki, on a Echo qui est annoncé pour le moment en 2023, mais de manière très vague, on a Agatha House of Harkness, on a la série animée Spider-Man Freshman Year, la série animée Marvel Zombie, on a un projet visiblement chapeauté par Destin Daniel Cretton qui avait fait Shang-Chi, qui serait potentiellement une série sur les Ten Rings, mais là on n'a pas beaucoup plus d'infos. On murmure toujours bien évidemment un reboot, ou en tout cas un soft reboot de Daredevil. Et puis donc il y a cette série Nova, le projet donc de Sabir Pirzada qui était sur Moon Knight et qui donc bosserait sur une série Nova. Voilà, c'est à peu près tout, et c'est déjà pas mal, je pense qu'on a encore quelques années devant nous. Hein, oui.
Ça fait une grosse phase 4 quand même, hein. C'est une phase 4 beaucoup plus chargée que la phase...
Il y a de la phase 5 à mon avis aussi là-dedans.
7-8 même tête là, mon avis.
Oui, c'est ça. Oui. Bon allez, on va passer à notre rubrique critique.
Like in Footloose, the movie.
Exactly like Footloose. Is it still the greatest movie in history?
It never was.
I Love You 3000, c'est notre rubrique critique du dernier film ou de la dernière série du MCU, et cette fois-ci, bah, on a une série et un film. Je vous propose qu'on commence par Moon Knight et qu'on reste donc dans la critique pure, hein. On parlera de tout ce qui est spéculation et d'ouverture sur le MCU dans la rubrique Theory Crafting. Je vais commencer de mon côté avec un sentiment quand même assez mitigé. Et j'ai l'impression que c'est moi qui suis passé à côté de la série, en fait, parce que quand j'entends les retours, quand je lis les critiques, j'ai quand même l'impression que globalement, ça a plutôt visé juste. Il y a plein de choses qui ont fonctionné pour moi, le ton un peu décalé marchait bien, moi j'ai pas eu de problème avec ça, j'ai pas eu de problème avec le personnage de Steven, j'ai pas eu de problème avec l'univers, la mythologie, je trouvais ça plutôt sympa, ça ouvre encore une fois une porte, une nouvelle porte pour le MCU. Là où j'ai eu un petit peu de mal, c'est que j'ai trouvé la série assez brouillonne, en fait, et avec une impression parfois de moments qui temporisent et qui sont pas super intéressants, et puis tout à coup des accélérations. Alors peut-être que c'était l'effet voulu, hein, j'en sais rien, mais en tout cas ça, je suis sorti de la série vraiment en me disant ouais, je suis pas sûr d'avoir trouvé ça vraiment très intéressant. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais la remater dans quelques semaines en binge les 6 épisodes d'affilée pour voir un peu si j'ai toujours ce sentiment là peut-être que c'était moi qui n'étais pas dans le bon état d'esprit, mais en tout cas voilà, moi j'en sors assez mitigé. Fox, ton avis?
Je suis mitigé aussi. J'ai eu beaucoup de mal sur le début de la série. J'ai eu beaucoup de mal avec le personnage de Steven. Alors, je reproche absolument pas à Oscar Isaac d'avoir été formidable, parce que c'est un formidable acteur et ça, on peut pas lui enlever. Il est très doué, il est très bon, mais l'écriture du personnage de Steven, même si c'est très bien expliqué, bon, c'est un peu expliqué vite, certes, mais c'est bien expliqué, bien présenté. La série, quand tu la regardes, je suis assez d'accord avec toi, quand tu la regardes un épisode par semaine, je pense que c'est plus abrupt et plus dur que quand tu la regardes, peut-être pas en la bingeant, mais en deux gros morceaux, en fait, en deux gros morceaux de 3 heures, parce que il y a un côté que je trouve, oui, assez brouillon, il y a un côté que je trouve facile, et en même temps, c'est on a overcomplexifié les personnalités multiples de Moon Knight. Pour donner un truc qui est à mon sens bancal, en fait. J'aurais aimé un peu moins de blabla, un peu plus d'action, enfin un peu plus de Moon Knight, en fait, tout simplement.
Bah, pour compléter ce que tu dis, moi je dirais juste que j'ai eu l'impression de voir un film qu'on avait tiré un peu artificiellement en série, en 6 épisodes. Il y a vraiment des moments qui sont pas utiles et des espèces d'accélérations un peu étranges. Et encore une fois, voilà, je réserve un avis définitif quand j'aurai eu l'occasion de la remater dans de bonnes conditions et en binge, et on en reparlera peut-être à ce moment-là. En attendant, Archéon, toi, ton avis sur la série à chaud?
Le dernier point que tu disais, c'est un peu ce que je partage aussi, c'est j'ai l'impression que c'est un film à la base qui a été tiré en série parce qu'il fallait une série, pas un film. Donc du coup, ça fait un rythme un peu bizarre, une histoire qui peut-être se suffit pas sur la durée. Mmh. Moi, globalement, j'ai pas aimé. Hein. Je suis vraiment passé à côté du truc. Non. Il y a l'histoire en elle-même m'a pas trop intéressé. Il y a aucun personnage que j'ai eu envie de revoir après. Mmh. Pas typiquement le personnage d'Arrow, celui de Ethan Hawke. Transparent, quoi. Il y a vraiment. Mmh. Donc ouais, c'est ouais le bilan pour moi est vraiment pas bon. Enfin, je là justement on parlait de la news au-dessus, on disait que c'était plutôt une bonne nouvelle de voir les producteurs de Moon Knight qui bossent sur Fantastic Four. Moi de mon côté, je le vois pas si bien que ça.
Faut voir ce qu'ils vont faire sur un film sur un
bah, peut-être,
une durée un peu plus courte.
À voir. Mais après non, sinon il y a moi le personnage de Steven en soi, c'est vraiment juste l'accent, cet accent qu'il a pris qui est vraiment bizarre et qui me rentrait dans le crâne à chaque fois et qui. Ben, en fait, je me rends compte que s'il faut, c'est peut-être à cause de ça que j'ai loupé les trucs sur le personnage de Steven et qui m'ont fait décrocher de la série. Enfin, je sais pas, il y a vraiment plein de petits éléments et quand tu les mets tous ensemble, la série, elle m'a vraiment pas branché du tout. Quoi.
Voilà, donc plutôt mitigé les clairvoyants sur cette série Moon Knight. On verra ce que fait le personnage par la suite, s'il a une suite, hein, on sait pas encore. C'est pas uber optimiste d'envisager une série Midnight Suns, donc je pense qu'on sera amené à le revoir. Et puis, on va passer au gros morceau qui est Doctor Strange in the Multiverse of Madness qu'on a tous pu voir. Ouf. Bah, je vais commencer du coup et ça va être très très court. Hein. Moi, je me suis bien éclaté, vraiment. J'ai passé un super bon moment. J'avais un peu peur quand ils ont annoncé la durée. J'espérais jusqu'à la dernière minute que ce soit une rumeur et que le film soit beaucoup plus long. Et finalement, en fait, il n'a pas besoin d'être plus long. Je trouve qu'il est action-packed, comme disent les Américains. On n'a pas un moment où on souffle, ça démarre très fort. Il y a très peu de temps mort. Et malgré tout, les personnages sont quand même super bien développés. Sam Raimi se permet quelques longs échanges, bah, notamment les deux Strange. Je trouve ce passage vraiment très très intéressant. Visuellement, bon bah ça, la patte de Sam Raimi, hein, clairement, ça fait plaisir de voir sa patte dans le MCU, de voir qu'on lui a laissé quand même de la marge pour faire un peu des trucs typés films d'horreur. Il y a cette scène où Wanda les poursuit dans ces couloirs humides dégueulasses, qui est vraiment, voilà, c'est emprunté au film d'horreur direct et ça fonctionne super bien. La musique est top, les effets spéciaux sont cool, l'histoire est chouette et il n'y a pas trop de fanservice, c'est pas gratos, ça sert vraiment l'histoire. On aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure, le traitement des Illuminati, moi j'ai trouvé ça vraiment très très chouette. Voilà, il n'est pas parfait non plus, il y a peut-être quelques petits trucs, mais je ne veux pas m'étendre sur les reproches parce qu'ils sont vraiment secondaires. Moi je me suis vraiment pris une grosse claque et j'ai hâte de le revoir sur mon petit 5 points dans mon salon avec le son à fond. Voilà, Fox.
Je me suis régalé. Après tu sais que j'adore le cinéma de Sam Raimi et que j'adore Evil Dead et que c'est moi j'en attendais énormément de ce film, c'est l'un de ceux que j'attendais le plus. J'ai passé un excellent moment, j'ai eu des moments où j'ai beaucoup ri bizarrement alors qu'il y a pas tant d'humour que ça, mais dans la vision, dans si Black Bolt, je suis désolé. Ah, j'ai eu ma putain de vengeance, ils m'ont fait exploser Black Bolt, j'étais heureux. Enfin, c'était, il y avait du fan service, hein, c'était très fan service, hein, toute la partie centrale est quand même très très fan service, mais il y a un vrai cheminement, comme tu le dis, deux heures, ça passe vite en fait, ça passe vite et comme c'est très dense, bah tu passes un bon moment. J'ai trouvé Benedict Cumberbatch absolument formidable. Wong, le duo avec Wong est toujours aussi efficace. On en a vu un peu plus sur l'univers. On a beaucoup à dire dans le débrief en théorie crafting, mais j'avais raison, c'était bien Monica Rambeau, niquez-vous.
J'étais d'accord avec toi, Monica Rambeau. Pourquoi je me fais insulter du coup.
On analysera.
Non, mais il y a plein de gens qui m'ont dit, mais non, mais c'est super Iron Man, arrête de fumer la moquette.
On analysera nos prévisions tout à l'heure, on va en rester à la critique pour le moment. Archéon donc, ton avis?
Alors moi j'ai vraiment adoré. Et le truc qui m'a le plus surpris, c'est qu'en général, tout ce qui est musique, c'est pas le truc que je note le plus vite. Et encore moins Elfman, où je suis pas très très fan. Mais là, le travail sur la musique est assez dingue.
Ouais.
Je pense que la scène de la bataille de musique, parce que Elfman est arrivé après dans le projet, non? Si je dis pas de bêtises.
C'est bien possible, ouais. Il est peut-être arrivé sur le tard sur le projet, ouais.
Moi, je suis en train de me dire que Rémi est en train d'écrire cette scène, il a fait putain, mais il faut Elfman pour celle-ci, quoi. À mon avis, je pense que les deux ont bossé ensemble, grâce à, enfin, bref. En tout cas, c'était très bien niveau musique, c'était très bien niveau visuel. L'histoire, j'ai adoré. Comme tu disais, moi, le format 2h, ça me va très très bien. Après 2h40 de Spidey, en dehors du fait que j'ai pas aimé le film, je pense que 2h40 c'était quand même un peu trop. Mais là, le petit défaut que je vais noter, c'est même pas un défaut en fait, c'est j'ai vraiment adoré le jeu de d'Elizabeth Olsen et du coup peut-être que ça met un petit peu en retrait celui de l'actrice qui joue America Chavez.
Ouais, ouais.
Je son nom à prononcer, c'est Sochi, je crois, ça se prononce Sochi Gomez.
Ouais, c'est ça, Sochi.
Je pense que la pauvre du coup elle fait le taf hein, vraiment elle assure ouais. son rôle. Mais quand tu la compares à la côté d'Elizabeth Olsen qui vraiment elle vole la vedette à quasiment tout le cast. Hein.
Ouais.
Bon, c'était le petit défaut que je vais noter, mais pour le reste, pour moi, c'était nickel, vraiment nickel.
Ouais, c'est vrai que j'en ai pas parlé, enfin, j'ai cité le cast de manière générale parce que pour moi, ils font tous super bien leur taf, mais c'est vrai qu'Elizabeth Olsen, particulièrement, bah, depuis le début, moi, je la trouve vraiment très bien dans ce jeu permanent. Dans WandaVision, elle était extraordinaire aussi, hein, cet équilibre permanent entre fragilité et surpuissance. Dont elle joue vraiment super bien dans ce film aussi. Il y a cet échange avec Strange à un moment où elle lui dit si vous ne filez pas America Chavez, c'est pas Wanda qui va revenir, c'est la Scarlet Witch. Et ce moment est vraiment, enfin la manière dont elle le joue et tout, elle vraiment fonctionne super bien quoi. Donc voilà, j'espère en revanche que c'est pas la fin de Scarlet Witch et de Wanda dans le MCU, je ne pense pas. On aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure dans la partie Theory Crafting, mais donc voilà, bilan plutôt mitigé pour Moon Knight et très positif pour Doctor Strange si je dois résumer l'avis de l'équipe au complet.
I am MODOK. I am science. I am genius.
I Am Science, c'est notre focus sur un personnage, une organisation ou un arc des comics. On a décidé ce mois-ci de vous parler de Gore, G-O-2-R, parce que ce sera le Big Bad du futur Thor, Love and Thunder. Et c'est un personnage assez récent, donc potentiellement assez peu connu, en fait, mon cher Fox.
Oui, parce qu'il a été créé par Jason Aaron et Esad Ribitch en 2013 dans Thor, God of Thunder numéro 1, donc en janvier 2013. Donc ça va faire bientôt 10 ans, mais c'est vraiment le Marvel récent.
À l'échelle des
quoi.
Comics, c'est récent.
Et donc... Aaron et Ribitch ont profité des publications de Marvel Now et ils ont décidé de faire un soft reboot de la franchise Thor en reconstruisant une histoire autour de Gore, qui est un tout nouveau personnage qui est arrivé à ce moment-là dans le lore Marvel en fait.
Alors qui est-il justement Gore ?
Ah ben Gore, c'est un extraterrestre qui est né il y a plusieurs dizaines de milliers d'années sur une planète inconnue. La vie de son monde est assez dure, il y a peu de ressources, de très nombreux dangers naturels et le climat favorise pas du tout la culture agricole, donc son peuple est très très croyant et souffre, mais il reste passif face à leur sort en attendant que leurs prières pour une vie meilleure soient exaucées par un des dieux de leur immense panthéon. Gore va perdre ses parents très jeunes, ce qui va le forcer à se débrouiller par lui-même et à commencer à remettre un peu en question la religion de son peuple. Il va parvenir tout de même à se construire une vie de famille et il va se marier avec Hara, avec qui il aura plusieurs enfants en fait.
Okay.
Sauf que la vie, c'est de la merde. Lors d'un énorme tremblement de terre, Hara et plusieurs de ses enfants vont mourir écrasés par des débris. Il ne restera que Agar, un de ses fils, qui va survivre, mais très affaibli par ses blessures. N'ayant pas de quoi le soigner, il va décider de mettre fin aux souffrances de son enfant et de retour à son village. Il va perdre tout espoir et va tenter de faire comprendre à son peuple que les dieux ne viendront pas et qu'aucune aide n'arrivera parce qu'ils n'existent simplement pas. Il va être accusé de blasphème et il va être exilé du village. Résigné et désormais totalement dédié d'espoir, il va errer dans le désert en attendant la mort, en fait, parce qu'il a tout perdu. Durant son exil, en fait, il va observer un très violent combat dans le ciel entre un être de lumière et un autre entièrement recouvert d'un halo noir extrêmement sombre. Il va avoir donc cette vision divine dans le ciel qui va remettre en question tout ce qu'il vient de vivre et toutes ses croyances et son rejet des dieux. Et à ce moment-là, les deux divinités s'écrasent violemment devant lui. L'être de lumière le supplie à ce moment-là de lui venir en aide et de voir quelqu'un, de voir un dieu qui l'a toujours renié, un dieu qui est censé être omnipotent, de le voir lui demander de l'aide alors qu'il a quasiment, enfin il a abandonné toute sa planète et ça va le rendre complètement fou. Il va s'emparer de l'épée du dieu sombre qui s'appelle la All Black Necro Sword en VO, qui est en fait le premier symbiote, on y reviendra peut-être un jour si on reparle des symbiotes, et elle va fusionner avec Gore et son corps et il va s'en servir pour achever le dieu de lumière d'un seul coup. Avec ses nouveaux pouvoirs, cette rage de se venger des dieux qui l'ont abandonné, il va jurer de traquer tous les dieux de l'univers et de les tuer pour se venger de l'absence de réponse à ses prières au moment où toute sa famille a été tuée et pour toute la vie qu'il a menée. Et il va créer un device qui va s'appeler la God Bomb, qui est une bombe censée tuer les dieux. Et bien plus tard, on est au 9e siècle de notre ère, Thor va aller dans un village viking où il va fêter une de ses victoires avec les habitants du coin, classique Thor. Et lors de son séjour, un des villageois fait la découverte d'un corps assez bizarre qui est choué sur le rivage et couvert de blessures. Thor va reconnaître la victime comme étant en fait un dieu amérindien. Il va pas comprendre ce qui s'est passé à ce moment-là ni prendre la mesure de la menace. Et au fur et à mesure du temps, Thor va rencontrer plusieurs fois Gore et ils vont se croiser en fait la route l'un de l'autre. Et lors de l'un de leurs affrontements, en fait, il va quasiment perdre la vie face à Gore, parce que Gore est un tueur de dieux, en fait.
Ouais, on l'a vu dans le trailer, cette histoire de Thor sur plusieurs générations qui laisse penser que ça va être effectivement l'arc qui va être utilisé dans le film aussi. Le fait qu'ils se rencontrent depuis la nuit des temps et que c'est pas leur première bataille, quoi.
C'est ça. Et puis, il y a aussi ce fait que les panthéons de dieux, il y en a pas qu'un. Parce que nous, on connaît, évidemment, on a le panthéon asgardien, le panthéon grec, il y a d'autres panthéons dans Marvel, différentes divinités selon les pays, selon les régions de l'univers. Aussi, et Gore les traque sans aucune discrimination. Ouais, c'est-à-dire que tu sois un dieu bienveillant qui s'occupe de son peuple, ou un dieu qui est malsain et qui désire torturer tout le monde, il te tuera pareil. Donc que tu sois Surtur ou que tu sois Thor, tu crèveras pareil face à lui, quoi.
Et visiblement, donc, dans le film, la victime suivante, ce sera les Olympiens. Hein. Enfin, ouais. Voilà, Zeus et compagnie.
On va partir à l'Olympe, ouais. Ah,
ouais. Alors Thomas, qu'est-ce que tu as comme recommandation de lecture à nous faire pour l'ami Gore?
Alors, pour l'ami Gore, pas grand-chose, parce que finalement, on l'a vu que dans un seul run, mais j'ai pas mal de trucs qui tournent un peu autour.
D'accord.
Du coup, le premier qu'on va voir, c'est celui dont on parlait, Thor God of Thunder en 2013 par Jason Aaron et Esad Rebic. Donc, comme on disait, c'est un espèce de soft reboot un peu de toute la franchise Thor, tout l'univers Asgardien qui commence avec cette histoire de Gore, le tueur de dieux. Donc, tout le volume que je vous ai, on mettra le lien en billet du podcast, mais tout le volume n'est pas centré là-dessus. Ça va surtout tourner autour des 12 premiers numéros que je vous conseille vraiment de lire. Donc, les deux arcs s'appellent God Butcher et God Bomb, donc God Butcher, la montée en fait de Gore en puissance et ses rencontres avec Thor au fil des années. Comme tu le disais, en fait, on a plusieurs versions de Thor, un jeune, un moyen, enfin, je sais pas, un milieu de sa vie à peu près, et un autre vraiment en fin de vie sur un Asgard délabré, vraiment. Donc là, on va suivre ça, et ensuite le God Bomb, qui est le plan de Gore pour vraiment éradiquer tous les dieux qui restent. Donc, je vous recommande vraiment de lire ça. Déjà parce que Jason Aaron est un auteur que j'aime beaucoup. En plus parce que les dessins d'Esad Rebic sont juste dinguissimes. Mais surtout parce que cette saga Thor qu'il a lancée, comme je disais, ça va avoir un impact déjà sur Thor lui-même. Parce que c'est derrière, on va avoir Mighty Thor, on va avoir Unworthy Thor, on va avoir Original Sin, on va passer ça vite parce que c'est un peu de la merde. Mais c'est quand même lié aussi. Et en plus, on va avoir des liens avec d'autres persos, comme on le verra après quand je vous parlerai de la prochaine recommandation, mais... Ça va être lié avec du Silver Surfer et du Venom un peu. Donc c'est en termes d'événements Marvel, c'est quand même très très important.
Et puis je voulais juste préciser un truc aussi dont on n'a pas parlé dans le focus, mais c'est vrai qu'il y a une notion à un moment dans cet arc-là en fait où il y a plusieurs Thor qui vont à la fin des temps se battre contre Gore ou pas.
C'est celui-là, ouais.
Ok. Bon voilà, sans trop spoiler, en fait il y a une notion de multiples Thor en fait, bah qui font penser forcément au multivers, qui font penser aussi à Loki. Cette notion d'aller se battre là où c'est la fin du temps, c'est un truc qui rappelle la fin de saison de Loki. Donc est-ce qu'on aura droit à ces choses-là dans le film? Voilà, tout est possible. Donc, effectivement, ça semble être l'arc à lire, en tout cas, avant d'aller voir le film, si on veut se préparer un petit peu le terrain. Mais t'as deux autres arcs dont tu voulais nous parler.
Ouais, le deuxième, c'est King in Black. Alors, je vais vous le dire de suite, hein, faut éviter tous les tie-ins qu'il y a autour. Il y a King in Black Namor, King in Black, enfin, il y a des tétrachies qui sont pas super intéressants. Là, on est sur une mini-série en 2020 qui est sur 5 numéros. Et en fait, c'est intéressant de la lire parce que, comme Fox le disait pendant le focus, Gore est armé d'une arme qui s'appelle la All Black Necrosword, donc la Necrosword tout court, qui est en fait une arme qu'il a héritée d'une autre puissance divine qu'il a vue le jour où il a tué son premier dieu. Et en fait, c'est relativement important quand même de contextualiser un peu cette Necrosword, de voir un peu à quoi elle correspond. Et ça va rejoindre ce que je disais sur la partie d'avant, où on va se rendre compte qu'en fait, les nouveautés que Marvel a apporté à Thor, que Aaron a apporté à Thor, bah, ça va être lié sur d'autres séries comme King in Black, qui, elle, est écrite par Donny Cates et dessinée par Ian Stegman. Donc, c'est vraiment des notions un peu nébuleuses qui vont un peu partout. Mais quand même, ce pan de Necrosword est très, 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 très lié à Gore. Et je pense que ça vaut le coup quand même d'y jeter un petit coup d'œil.
Bah, d'autant plus qu'à mon avis, c'est typiquement le genre de truc qui va être à peine effleuré dans le film. Je doute qu'on aille sur l'historique et le background et l'origin story de Necrosword. Donc, voilà, si vous voulez en savoir un peu plus sur ce qui sera probablement l'arme de Gore dans le film, mais qui risque de pas être vraiment très très détaillé. Voilà donc un arc à aller lire, King in Black 2020, et puis tu voulais terminer par du Silver Surfer.
Du Silver Surfer, voilà, c'est un petit bonbon en plus. Il y a un lien, je vais pas placer ça au pif, il y a un lien surtout avec l'arc du dessus. Mais là on est sur, donc, comme tu disais, Silver Surfer sur une mini-série en 6 numéros, peut-être même 5, peut-être que je dis une bêtise, donc qui est écrite par Donny Cates, qui est dessinée par Trad Moore, un artiste que j'adore aussi. Et là en fait on va suivre une histoire de Silver Surfer. qui se passe à une époque vraiment inimaginable pour nous. C'est tellement loin qu'on peut pas le concevoir. En plus de ça, il passe dans un trou noir, donc c'est très compliqué. Niveau localisation, très compliqué. Mais on va le voir affronter, en fait, sans rentrer dans le détail, la personne qui portait Necrosword en premier au début, ce dieu que Gore a vu tomber du ciel.
Okay.
Donc on va voir en fait le lien qu'il va y avoir entre Silver Surfer, Thor, l'arc King in Black, et en plus c'est un super bon arc, très court à lire et très intéressant, donc je me suis dit allez-y, on vous fait les trois pour le même prix, mais vraiment allez-y, celui-ci est super intéressant à lire, et on retrouve encore cette notion, comme je disais, de lien entre les histoires qui a été mise en place avec ça.
Donc trois arcs dont vous trouverez les liens dans le billet qui accompagne ce podcast, bien évidemment. Merci les gars pour le focus et pour ces recommandations de lecture.
Jarvis, drop my needle.
Jarvis, Drop My Needle, c'est notre pause musicale tirée du MCU. J'avais très très envie de réécouter un morceau assez court, mais vraiment chouette, de la bande-son, évidemment, de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, signé Danny Elfman. Il s'agit de cette fameuse bataille de symphonie, Little Symphonies. Little Symphonies, donc Doctor Strange in the Multiverse of Madness, une bande-son signée Danny Elfman.
Went forward in time to view alternate futures, to see all the possible outcomes of the coming conflict.
How many did you see?
14,605.
How many did we win?
One.
Avengers, c'est pas l'heure, c'est notre rubrique récap, théorie crafting et spéculation. On va faire un rapide débrief côté importance dans le MCU de Moon Knight, parce que bah, finalement, à part, comme je le disais dans ma partie critique, ouvrir une nouvelle porte, un nouveau pan du Marvel Comics Universe au MCU, il n'y a pas vraiment de connexion directe avec ce qu'on connaît actuellement dans le Marvel Cinematic Universe, donc spéculer est relativement difficile, d'autant plus que bah, on sait qu'Oscar Isaac a signé que pour une série, donc enfin une saison même, donc on n'est pas encore garanti de le revoir, que bah, globalement on a quand même tous un avis un peu mitigé sur le perso, donc voilà, beaucoup d'inconnus qui font que c'est quand même assez difficile de spéculer sur Moon Knight. Perso, j'ai pas vraiment d'idée, à part toujours cette notion de Midnight Suns qui pourrait arriver à terme un jour, mais visiblement quand même pas tout de suite. Donc je sais pas si de votre côté vous avez des idées de potentiels liens avec le MCU ou de choses qui pourraient avoir son importance pour la suite, ou en tout cas la suite des projets qu'on connaît déjà, comme Blade par exemple.
Moi j'ai l'idée que on pourrait avoir un problème de panthéon égyptien avec Gore, justement. Il pourrait y avoir un ciblage du panthéon égyptien, parce que là c'est pas rien. On connaissait le panthéon d'Asgard, on a découvert tout le panthéon égyptien. En juillet on va avoir le panthéon grec, donc on arrive petit à petit à avoir des panthéons divins qui sont établis et montrés dans le MCU. Alors ils sont différents les uns des autres, puisque le panthéon grec et le panthéon asgardien, ils ont leur propre corps et manifestation corporelle. Le panthéon égyptien, ils prennent des avatars, mais on n'a pas vu leur véritable apparence, à part pour quand on les voit rapidement. Enfin, on le voit pour Khonshu par exemple, qui apparaît en espèce de spectre, mais sinon on voit pas leur corps en général. Donc ça, ça peut être un lien, ou du moins c'est pour au moins appâter les gens vers les panthéons méditerranéens en tout cas. Et après, dans l'univers en lui-même, je pense que tout va se rejoindre comme d'habitude sur New York après. Donc c'est toujours New York le centre du bordel. Je serais pas étonné, alors pas de revoir Isaac de suite, mais peut-être dans un an et demi ou deux ans, je serais pas étonné de le revoir faire une apparition soit dans un film, soit carrément dans une série liée à l'univers de New York, peut-être dans le reboot de Daredevil ou quelque chose comme ça. Il est arrivé qu'on confonde les deux, parce que c'est deux mecs qui se battent la nuit avec des tenues bizarres et qui sont très athlétiques et qui cassent la gueule aux méchants. Je serais pas étonné que s'il y a du Daredevil qui revient, on aurait peut-être une légère rencontre avec... Ça m'étonnerait moyen, mais au-delà de ça, il n'y a pas grand-chose.
Je sais pas non plus. Thomas, toi, tu as des idées, des choses que tu vois se dérouler pour l'avenir de Moon Knight hein?
Pas spécialement, non. C'est vrai qu'on parle souvent du Midnight Sun, mais j'ai tendance à un peu de moins en moins y croire, en fait. Là, pour le coup, comme disait Fox, c'est vrai qu'on a tendance à tout recentraliser sur New York après pour ce qui est du MCU. Là, le fait que ça se passe à Londres et au Caire, je pense que c'est pas innocent. Je pense qu'à mon avis, c'est vraiment cette série, c'était un coup d'essai pour voir un peu ce que ça donne quand on fait du MCU un peu plus mystique, on va dire, entre guillemets. Et en tout cas, à mon avis, c'est un petit peu un coup dans l'eau. Donc, je pense pas qu'il y ait de futur un peu dans les plans de Marvel pour Moon Knight pour l'instant. Je pense que c'était vraiment pour tester une nouvelle façon de faire, un nouvel univers. Comme tu l'as dit, Isaac, de toute façon, a signé que pour une série maintenant. Donc, alors, c'est pas exclu qu'il signe sur d'autres projets plus tard, mais il me semble qu'il a été rattaché à un projet Star Wars très récemment, non?
C'est possible, ouais. Et puis bon, bah voilà, il est pas non plus, il est quand même relativement sollicité, ouais, voilà, on va dire. Donc,
Donc pour moi, non. Enfin, le lien direct, le plus évident que je vois avec le MCU pour l'instant, c'est qu'on a ce qui semble être Bast à un moment. Je pense que c'est le seul truc qu'on a d'assez solide pour le moment. Le reste, non, je dirais que c'est, et c'est fait exprès. Hein, je pense que c'est mis de côté pour l'instant. Ils verront ce que ça donne, ils verront ce qu'ils peuvent en faire. C'est, on verra plus tard. Même le lien avec Gore, je pense pas.
Ouais, je crois pas non plus. Je les vois pas utiliser à la fois le panthéon grec et en plus revenir sur le panthéon égyptien qui nécessite d'avoir vu la série Moon Knight. Enfin, pour refaire finalement la même chose, j'y crois pas trop non plus. Donc on verra s'il y a des annonces qui arrivent sur des nouveaux projets qui pourront potentiellement, dans ce cas-là, signaler le retour de Moon Knight. Mais en ce moment, à part une éventuelle connexion avec Black Knight, avec Blade qui arrive, on sait pas quand, je vois pas trop où on pourrait le retrouver. Enfin, alors,
tout à l'heure, t'as fait la liste de tout ce qui est à venir dans MCU et j'ai un peu de mal à y trouver une place pour une Moon Knight saison 2.
Mais
aussi,
pareil, hein. je remettais la liste et je vois pas trop où on pourrait le retrouver. Donc, effectivement, peut-être le projet de Destin Daniel Cretton qui est pas annoncé, qui pourrait être un projet en lien justement avec ce pan un peu déité, panthéon, etc. de Marvel. À voir.
Ou alors carrément avec Deadpool et là c'est le bordel, mais c'est X-Force le
retour. Toi, tu veux voir Deadpool partout, donc au bout d'un moment, si tu veux.
C'est mon droit constitutionnel. J'applique mon droit à Deadpool. Excuse-moi, Café Moore représente les vrais défenseurs de Ryan Reynolds.
Allez, on va passer au débrief et à la spéculation autour de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Alors, les deux choses principales que moi je retiens dans les ouvertures potentielles sur des choses dans le MCU, c'est bien évidemment déjà de savoir ce qui va devenir de Wanda. Je pense qu'on est tous plus ou moins d'accord pour dire que clairement il laisse la porte ouverte pour réutiliser le personnage derrière et que visiblement, enfin, à mon sens, son arc n'est pas terminé. Je pense qu'il y a encore des choses à raconter. Et puis, ça parle aussi beaucoup des incursions, non seulement pendant le film, mais aussi dans la scène post-générique avec l'arrivée donc de Cléa, qui annonce une incursion. Donc, est-ce qu'on se dirige vers un Secret Wars? Est-ce qu'on tâte le terrain là aussi, avec en se laissant des portes ouvertes pour éventuellement peut-être aller dans ce sens-là? Quand même beaucoup de choses qui laisse penser aussi qu'on n'a pas fini encore d'entendre parler des Big Bad de Doctor Strange. Il y a quand même un côté très Nightmare dans le Evil Strange qui rencontre à un moment et qui lui explique que tous les cauchemars qu'il a fait, c'est lui. Donc, je sais pas, est-ce que là aussi, il y a des pistes qui sont lancées? On va en discuter et qui veut prendre le micro là pour donner un petit peu son sentiment sur les portes qu'ouvre ce Doctor Strange 2?
Plein. Déjà, la plus grosse, tu l'as dit, pour moi, c'est le nombre de fois où ils disent incursion dans le film.
Ouais, c'est ça.
Alors, je suis pas persuadé qu'il fasse du stricto sensu Secret Wars comme on l'a vu dans les comics. Mais ça fait un petit moment qu'on arrête pas de dire que ça serait le bon moyen de faire rentrer des nouvelles franchises dans le MCU. Et à mon avis, ils viennent de mettre ça en place, en fait. La button scene de Cléa qui arrive en disant hey, on a une incursion à gérer, il faut que tu viennes m'aider. Mm-hmm. C'est pour moi, c'est clairement un clin d'œil pour dire, bah, ça est combiné à John Krasinski en Fantastic Four que les fans demandent depuis des années et qui est peut-être un des, des meilleurs fancasts qui a été fait depuis le début du MCU.
Il est bien, il est détaché, il est pas menaçant, mais en même temps, tu le sens très présence, froid, distant. Et c'est vraiment pour moi le Reed Richards des comics, quoi, ce côté super scientifique, mais très détaché, très, ouais, très froid, très, presque robotique, en fait.
Bah, tu le vois aux décisions qu'ils prennent, où ils te disent, non, on n'est pas là pour, on n'est pas là pour débattre, on est là pour juger, on verra ce qu'on fait après, donc ça colle bien avec ça. Mais en tout cas, je pense que déjà, la plus grosse porte, ouais, ça va être faire venir des persos via les fameuses incursions. Mm-hmm. L'autre porte qui va rester aussi, c'est America Chavez, hein. Donc ouais, est-ce que comme ça qu'ils vont faire venir les Young Avengers, ou est-ce que ça va faire une autre équipe, ou comment ça va se passer pour ce perso-là? Enfin, il y a tellement de possibilités avec America Chavez que des portes, elle toute seule, je pense qu'elle en a moins une dizaine. Comme tu le disais, la partie Nightmare aussi, parce que je suis assez d'accord sur le fait que il y a un autre bit bad en filigrane derrière qu'on n'a pas forcément identifié, mais qui traîne dans le coin. Le retour de Cléa, ça peut signifier un retour de Dormammu aussi, donc il y a tout énormément de choses. L'arc de Wanda qui pour moi non plus est pas fini, cette explosion rouge qu'on voit à la fin quand Wundagor s'écrase, c'est pour dire est-ce qu'elle est morte les gars.
En fait, j'y réfléchissais là, je me dis que Wanda elle mériterait limite une nouvelle série en fait, ou alors de revenir dans Doctor Strange 3 peut-être. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on résolve cette histoire des gamins, en fait, parce que bon, clairement, si on va vers les Young Avengers, ce serait dommage de se priver de la possibilité d'utiliser les gamins de Wanda, comme c'était le cas dans les comics, et du coup je me dis que ça serait une résolution de son arc. Mais alors comment, ça je vois vraiment pas, parce que bah, on a quand même quelque part, si on n'a pas une résolution complète de l'arc de Wanda, en tout cas on a une résolution par rapport à ses gamins, puisque c'est un peu la fin du film où elle accepte finalement la réalité. Mais voilà, c'est Wanda, donc tout peut arriver. Donc je sais pas s'il faut que tu aies un avis là-dessus sur le devenir de Wanda dans le MCU.
Je me suis posé la question, est-ce qu'Elisabeth Olsen a décidé d'arrêter, ou est-ce qu'on a coupé son rôle? Je pense pas qu'elle a décidé d'arrêter, je pense pas qu'on a envie de couper son rôle, et je pense que cet éclair rouge qu'on voit au moment où le monde Wundagor s'écrase, c'est elle qui est envoyée quelque part. Ça ressemble à la fermeture d'un portail un peu rapide. Je me dis que, étant donné qu'elle a détruit le Darkhold dans toutes les réalités, le Darkhold, il a été créé par quelqu'un, ou du moins il est préféré par plusieurs entités. Je me dis qu'au moment où elle pensait être libérée, on l'a enlevée. Alors qui sera-ce? Nightmare, sera-ce Mephisto, lol. Et oui, mais Mephisto, c'est quand même lui qui avait créé les gamins et qui a enfermé leur existence dans des pierres d'âme au fin fond des enfers. Et si ça se trouve, les créations de réalité qu'elle fait et qu'elle maintenait par magie, il a très bien pu, avec l'aide de Agatha pour X ou Y raison, parce qu'Agatha est à la clé, est à la source de tout aussi. Ils existent peut-être quelque part, et il a voulu la récupérer, parce que s'il y a une autre Wanda, ça m'a posé une question d'ailleurs, on en parlera après, mais
ouais, ça m'inspire quelque chose en fait, parce que j'étais en train de me dire, alors on pourrait peut-être éventuellement revoir Wanda dans la série Agatha House of Harkness, si ça se passe après les événements de WandaVision, ça aurait du sens, avant pas du tout. Mais du coup, en fait, je me demande si, alors c'est complètement spéculatif là pour le coup, mais on a quand même quelque part, d'un point de vue émotionnel en tout cas, avec ce Doctor Strange 2, une espèce d'Avengers disassembled en fait, enfin pas au niveau des Avengers, mais on a ce côté un petit peu démontage émotionnel d'un personnage, et avec alors le problème, c'est qu'effectivement on revient sur une trame qu'on a déjà vue dans WandaVision, parce que je me disais que ça serait une bonne manière d'attaquer un arc House of M, mais dans le MCU, et du coup House of Harkness, House of M, je me disais tiens, est-ce que ça pourrait être un petit indice, mais ça voudrait dire refaire une histoire finalement assez similaire à WandaVision, et je vois pas du coup l'intérêt en fait.
Sachant que la résolution là de Multiverse of Madness, en final, c'est quand tu prends WandaVision et Multiverse of Madness, si tu les inverses, bah t'as House of M en fait. Ouais, t'as Wanda qui pète un câble, qui crée son univers parallèle avec ses gamins, etc., et ensuite se calme un peu. Mais par contre, je pensais à un truc, pendant tout le film, ils arrêtent pas de dire, celui qui utilise Darkhold, il y a un coût à payer, quoi, c'est pas gratos. Et Fox disait Mephisto, ça pourrait être une piste intéressante, de Mephisto qui est lié au Darkhold pour X raisons, qui dit, Pep, t'as une facture à payer. Parce qu'elle s'en sert quand même pendant quasiment tout le film, c'est vraiment celle qui s'en sert le plus du film.
Ouais, tout à fait.
Et il y a un autre truc aussi, je relève ce que tu disais, Fast, que sur Avengers Disassemble, c'est ce qu'on vit depuis les premiers films sortis post-endgame. Tout est un Disassemble. Disassemble, on a eu WandaVision qui est un début de Disassemble, on a eu Hawkeye qui est la fin d'Hawkeye, on a eu Captain America et Winter Soldier ou Falcon et Winter Soldier, mais Falcon doit apprendre à laisser partir Steve et accepter son destin en tant que nouveau Captain America, Bucky qui doit faire le point avec son passé. Enfin, chacun, il y a eu Endgame a eu des conséquences et on est encore en train de les voir petit à petit. Mm-hmm. C'est ça qui est intéressant aussi. C'était, on en avait parlé à l'époque après Endgame où on disait qu'il y aurait une grande phase d'aftermath où on verrait. La vision que j'avais à l'époque, c'était, voilà, ils vont nous montrer comment les gens ont chié après le retour de tout le monde. Mmh. C'est l'exemple avec No Way Home aussi, puisque bah, ils ont tous la mémoire effacée. Spidey, il est tout seul, il a plus de famille, il a plus d'amis. Il erre seul, en fait, il est tout seul, tout le monde l'a oublié. Enfin, c'est assez triste quand tu regardes, ils ont détruit tous les liens qu'ils ont créés au fur et à mesure. Strange, il est plus sorcier suprême, c'est Wong parce qu'il est plus responsable, avec des gros R guillemets, parce que Wong responsable, voilà. Bon, il est moins irresponsable, on va dire, moins dangereux.
Après, dans le fait que Strange soit plus sorcier suprême, c'est uniquement parce qu'il a été blippé, qu'il n'était pas là pendant 5 ans.
Ouais, ouais, tout à fait. Ouais.
C'est pas par rapport à ses compétences.
Non, je sais, mais il est plus sorcier suprême, du coup, il a plus ce titre et il en a plus l'utilité, donc il se retrouve lui-même un peu. À rien foutre, en fait. Mm-hmm. Et on le voit, hein, dans nos Way Home. Il est en train de glander dans la maison en buvant du chocolat chaud. Il fait des cauchemars et tout ça, mais il en foutait pas une. Et chaque personnage qu'on voit au fur et à mesure, j'ai hâte de voir Wakanda Forever, même Thor, c'est aussi une histoire de reconstruction après un traumatisme. C'est le traumatisme Endgame, c'est le traumatisme d'avoir raté Thanos et de se sentir coupable de tout ce qu'il avait fait. D'où le fat Thor et la résolution de la réparation. Et qu'est-ce qu'il fait? Il part avec les Guardians parce qu'il espère faire quelque chose de sa vie. Et on le voit dans le film, on a une réévolution de Thor qui redevient le magnifique Australien à cheveux longs, point break, avec ses gros muscles, n'est-ce pas? C'est très homo-érotique ce que je dis, mais il est tellement beau ce con. Et là, on va le revoir vers quelque chose de nouveau. On approche des phases de reconstruction, tout comme c'est une reconstruction pour Moon Knight, puisque c'est la reconstruction des personnages et c'est la réconciliation entre Mark et Steven. On va laisser le troisième de côté parce qu'ils le connaissent pas. Mm-hmm. C'est là le trap. Et on va avoir une phase de construction. On a une phase de construction avec la fin d'Hawkeye et le début de la nouvelle Hawkeye. On va avoir Miss Marvel qui a une phase de construction d'une nouvelle héroïne. Et on termine cet énorme arc de les anciens, eux aussi les super-héros souffrent, les héros qu'on a connus pendant 10 ans souffrent, et ils payent leurs factures chacun à leur manière, en fait. Et maintenant, on va vers une nouvelle phase de construction qui commencera qui commence avec les séries et qui va ensuite attaquer sur 2023. On verra ce que donne Quantum Mania, mais Quantum Mania, c'est le dernier film de reconstruction, à mon sens, je pense.
Je sais pas, on en avait déjà parlé. Hein. Pour moi, ça sera plus un film choral, en fait. Enfin, j'ai vraiment l'impression qu'on va avoir finalement quelques surprises de ce côté-là, parce que j'ai le sentiment, encore une fois, que si Kang a été annoncé comme l'antagoniste principal du film, il y a des chances que ce soit la résolution, en tout cas une première résolution de l'aspect multivers, en tout cas côté Kang, et puis qu'après, derrière, on embraye sur effectivement l'incursion avec un Doctor Strange 3, avec un Fantastic Four. Ce serait l'occasion de faire arriver la famille Marvel effectivement dans le MCU. Enfin, voilà, il y a plein de pistes de ce côté-là, mais je reste quand même curieux de savoir ce qu'ils vont faire du personnage de Wanda, parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas fini encore de raconter son histoire. Je pense qu'il y a encore des choses à dire, et surtout j'espère qu'ils s'en débarrassent pas un peu parce qu'elle est trop OP, comme finalement on n'a plus encore vu Vision, hein. On pensait le voir aussi dans Doctor Strange 2, et puis finalement pas du tout. Où est-ce qu'il est? Est-ce qu'on va le voir dans Armor Wars comme le laissent croire les rumeurs, ou est-ce que le personnage est définitivement rayé de la carte? Je ne sais pas, c'est finalement pas... J'attendais peut-être plus de résolution par rapport au concept de multivers déjà dans Doctor Strange. En fait, finalement, il n'y a pas beaucoup. On est plus dans une espèce de setup pour la suite. C'est pas un reproche, hein, pour le coup, mais c'est vrai que du coup, ça ne nous permet pas de resserrer un peu nos spéculations sur le futur du MCU, quoi. Ça reste assez nébuleux pour le moment.
Mmh. C'est compliqué là-dessus. Mais on a eu un truc merveilleux grâce au multivers. J'ai pu voir la fin de ma vie.
C'est vrai, Captain Carter. Alors c'est rigolo parce que on y a repensé juste après avoir enregistré le dernier épisode où on faisait nos prévisions de caméo et on s'est tous dit mais merde, on n'a pas parlé de Captain Carter. Alors on c'est évident, on va la voir. Et puis on l'a vu, entrevu dans un trailer et on s'est dit merde, on est vraiment trop con. Donc effectivement, ça fonctionne plutôt bien. Bon, on la va pas très longtemps et puis elle se fait un peu saucissonner. Mais voilà, oui, ça fonctionne. Donc pourquoi pas.
C'est un lourd prix à payer, mais Black Bolt est mort.
Et Black Bolt est mort aussi. Voilà, ça s'est fait.
Et pour le coup,
ils ont pris
la plus
même acteur
surprise...
quand même pour lui faire exploser la tête.
Moi, la plus grosse surprise du film, ça reste le niveau de violence en fait que je voyais pas si haut.
Oui, c'est extrêmement violent.
Ouais, c'est très suggéré, hein, parce que bon,
c'est film, suggéré. Black Bolt, son crâne explose en gros plan, quoi.
Ouais. Bah la tête de Reed Richards aussi explose. C'est le mec. Ça fait un gros sproch. Et puis toute cette scène, comme je disais, où elle les poursuit dans les couloirs, là, qui est quand même ultra flippante aussi. Non, c'est vrai que c'est pour un film Marvel, c'était assez gore.
Et puis on a eu notre moment Evil Dead quand même, parce qu'on a eu le caméo qu'on voulait.
Oh bah ça, oui, c'était effectivement.
Il n'y a pas eu Stan Lee, ça, en même temps, mais, c'était obligé, mais hein. Bruce Campbell était là et il a intégré de la plus belle des manières.
C'est vrai qu'il y avait un truc qui me faisait peur après Spidey, c'était le côté fanservice. Et je pense que je l'ai dit plusieurs fois, que les Illuminati, c'était pas trop chaud. Mm-hmm. Meilleure idée jamais. Alors déjà parce que...
Stuart, incroyable.
Déjà parce qu'on
oui,
on parle...
avec la musique du dessin animé. Ah,
ça, oui, il a le fauteuil jaune dégueulasse. Il a les petites ondes quand il fait ses pouvoirs. Il a le riff de guitare du dessin animé. Alors, c'est parfait. Mm-hmm. Il a une scène super intéressante avec Wanda. Parce que je pense que le fait qu'il y a... J'ai entendu pas mal de gens dire que la conclusion de Wanda à la fin est un peu facile. Mm-hmm. Parce que...
Ah non, moi je trouve pas. Elle a vraiment un cheminement super
logique.
C'est
ça,
en fait.
Enfin... À mon avis, les gens se focalisent sur la scène de fin où ils disent « ça change trop facilement ». Alors que le changement de Wanda commence avec cette scène où elle tord le cou de Xavier, où il essaie de la sauver, et tu vois qu'en fait, il y a une Wanda qui est un peu en train d'essayer de s'en sortir, et je pense que c'est là que la résolution commande. Xavier, vraiment, super utilisation.
L'idée des Illuminati était vraiment brillante, mais John Krasinski en Reed Richards, je suis désolé, moi je peux pas quand je le vois. Le premier truc, la première image que j'ai eue en tête, c'est lui dans The Office.
Ouais, ça, c'est vrai, c'est quand même.
Moi, ça fonctionne pas trop. Les blindes, ça m'a pas perturbé personnellement.
C'est la barre.
Ah non, mais c'est au moment où elle commence à tuer Black Bolt, moi j'étais là.
Comme je disais tout à l'heure, il m'a fait ressentir ce côté faux gentil, mais
salaud.
En même temps qui est un vrai salaud, quoi. Tu sens le potentiel et enfin. Après, je sais pas quels sont les plans de Marvel. Il y a eu, des spéculations sur comme quoi c'était un test casting. Franchement, je pense pas que Marvel s'abaisserait à faire ça. Soit ils ont choisi leur Reed Richards, soit il est pas choisi et ils se sont dit bon, on va faire plaisir aux fans et on va le mettre dans Doctor Strange et puis on verra pour le vrai après derrière. De toute façon, on peut faire ce qu'on veut. Mais moi, je pense qu'il serait tort de se priver de Krasinski. Je pense que si on part vers une évolution de Reed Richards, comme dans les comics, avec The Maker, avec ce côté complètement savant fou et condescendant, et enfin qui a un god complex incroyable, Krasinski, justement, il a la tête de l'emploi. C'est un mec qui a l'air complètement inoffensif, mais en même temps, tu sens bien que voilà, il pense pas tout à fait comme nous en fait.
Mais du coup, ça me fait rebondir sur ce qu'on parle de porte ouverte depuis tout à l'heure. Il y a une porte qui s'est fermée d'une manière que j'adore, parce que bon, je vais encore taper sur Spidey, je suis désolé mais Multiverse of Madness, c'est vraiment un gros allez vous faire foutre de Marvel Studios chez Sony, quoi. Parce qu'on parle de John Krasinski, parce que fatalement son perso meurt, donc on pourrait dire bah non, c'était juste un caméo, etc. Moi je suis persuadé que là le cast a été annoncé, hein. C'était vraiment l'annonce de dire bah, Krasinski et Reed Richards. Et ce qui m'a fait marrer, c'est qu'on a Monica Rambeau à côté, ils ont fait revenir le mec de Black Bolt. Donc ils nous font comprendre en fait que à travers tous les univers, les personnages ont la même gueule en fait. Et nous, on a eu un Spidey juste avant, on avait trois Spidey différents.
Donc il y a une espèce
d'incohérence entre ce qu'a proposé Sony et ce que propose Marvel.
Alors je suis pas tout à fait d'accord, parce que Loki c'est la même chose en fait.
Parce que pour le coup je suis persuadé que Loki c'est pas la même chose.
Oui, c'est vrai, on en revient toujours à cette discussion effectivement, où est-ce que les embranchements de Loki c'est la même chose que le multivers qu'on voit pour le moment au MCU cinéma, et visiblement c'est effectivement pas le cas. Donc ouais, je comprends du coup la règle établie.
Et pour avoir subi Morbius,
je sais pas, j'ai encore
tâche.
Mais c'est pas vrai, hein.
Bah, la scène de fin revient un peu.
Dis pas que c'est de la merde.
Je te garde la surprise. Fais-toi plaisir. Mais du coup, déjà, Multiverse of Madness me mettait la puce à l'oreille pour me dire que Sony a fait le truc dans son coin sans demander à personne. Et Morbius me confirme ça, quoi. C'est que ils ont fait le truc à leur sauce, alors que Marvel. Enfin, je sais pas si Marvel Studios et Sony sont concertés là-dessus en disant. bah faites ci, nous on fait ça. Je sais pas comment c'est passé. Hein. Mais en tout cas, il y a deux.
Rappelle-toi qu'il était fini fin 2019, Morbius.
Ouais, en plus,
hein.
Ouais.
Il devait sortir début 2020. Ouais, Doctor Strange n'était pas tourné. Donc ça n'a aucun. Enfin, c'est... Après le film, je l'ai vu aussi. Et... J'ai pensé à toi, Fast.
Mais du coup, c'est là où je voulais en venir.
Il n'y a vraiment rien d'autre à faire.
Jared Leto est toujours très beau.
Là où je voulais en venir, du coup, c'est qu'il y a, deux. Ils ont pris deux chemins différents. Et Multiverse of Madness, pour moi, c'est vraiment. Fermer la porte après Spidey. Là, clairement, c'est deux façons de faire différentes. Et bon, voilà. Tout ce que je voulais dire sur Spidey pour cracher une dernière fois dessus.
Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire encore de ce Doctor Strange in the Multiverse?
Le troisième œil, les mecs.
Oui.
Mais oui, exact. Donc moi, ça me fait penser, encore une fois, à Nightmare. Je sais pas pourquoi, mais
j'ai pensé à un autre troisième œil, l'œil d'Agamotto, en fait. Il a le véritable œil d'Agamotto, pas la gemme. Son troisième œil, c'est l'œil d'Agamotto.
Moi, je pense que la piste, elle est côté comics pour une fois. J'ai tendance à dire à chaque fois, les adaptations, ils font jamais stricto sensu. Mais là, pour le coup, il y a l'arc de Jason Aaron, encore lui, hein. Qui vraiment tourne un peu autour de ça, où il a son troisième œil. Les thématiques sont un peu similaires. Et il y avait une photo de Rémy sur le tournage de Spidey où il lisait un Ultimate Spider-Man qui venait juste de sortir quand il tournait la scène. Mm-hmm. Et je pense qu'il y a eu exactement la même chose quand il tournait là, où il a pris les comics de Jason Aaron et il a dit bah ça c'est cool, je vais faire pareil. Mm-hmm. Et ce coup du troisième œil, ça revient souvent. Et en fait, là où ça a vraiment flashé, c'est justement sur la button scene où on le voit avec sa petite écharpe déambuler dans les rues de New York, qui est une case, mais très pour très, d'un truc qui est pris de chez Aaron, en fait. D'accord, et donc, ce troisième œil, c'est un peu un pouvoir en plus qui se déclenche, qu'il a eu au fil des années à utiliser différentes sources de magie un peu douteuses. Donc, ça rejoint un peu ce qu'on a avec le Darkhold.
Tout à fait.
Et à mon avis, ils partent sur un truc un peu similaire.
Ok. Bon, bah écoute, ça me paraît être une piste effectivement intéressante. Du coup, un Doctor Strange 3 qui tournerait autour de quoi? Est-ce que ce serait cette incursion dont on parle à la scène post-générique, ou bien est-ce que cette incursion va être résolue, comme moi je le pense, plutôt dans un film Fantastic Four, hein, et du coup, où il y aurait Doctor Strange aussi? Enfin, il y a un moment où il va falloir qu'il raccroche les wagons, quoi.
Bah, je sais pas quand non plus. Ça me ferait chier de l'avoir dans un Strange pour avoir deux Strange avec la même thématique.
Oui, et puis surtout, si c'est dans un Strange, ça veut dire résolution dans quoi, 3 ans, 4 ans, donc ça veut dire qu'on va se traîner les incursions jusque là, je suis pas convaincu.
La piste Fantastic Four, ça me plaît bien, parce que justement ça permettrait comme on disait, de se servir de ça pour les intégrer. Bah, ce qu'on peut appeler
en plus, là, tu peux faire un Strange qui dit, bah, moi, j'ai croisé un mec, là, dans le multivers, qui avait l'air super smart. On m'a dit que c'était le mec le plus intelligent de l'univers. Il faut qu'on trouve une de ses versions et donc ramener un Fantastic Four d'un autre univers dans l'univers principal. Et voilà. Et ça tient la route et ça a été, intelligemment, préparé, en fait, en amont. Donc, ça serait pour moi, pour le coup, relativement organique. Donc, ouais, effectivement, ça me paraît être une bonne idée de voir Doctor Strange dans Fantastic Four.
Et surtout, du coup, ça fait un Doctor Strange 3 avec Cléa qu'on pourrait avoir dans son rôle de nièce de Dormammu, faire revenir Dormammu en team-up avec elle. Ouais, pour être sympa. Surtout, on peut le savoir, on n'en a pas parlé, mais Charlize Theron en Cléa, yes, please. Enfin, j'adore cette femme, quoi. Elle joue trop bien, elle est magnifique, elle est drôle. Elle assure. Alors, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas trop son maquillage dans Cléa, là. Mais ça colle assez bien au perso, et moi c'est gros oui ce cast.
Donc voilà, plutôt une résolution des incursions dans Fantastic Four, l'arrivée donc d'un ce qu'on pense tous être le Reed Richards définitif, donc John Krasinski. On verra si l'avenir nous donne raison, parce que sinon effectivement ça voudrait dire attendre un Doctor Strange 3, ce sera pas pour tout de suite, et je vois pas d'autres projets dans lesquels on pourrait à la fois avoir un Doctor Strange et une résolution, ou en tout cas une mention des incursions. Certainement pas dans un Captain America 4, probablement pas dans un Blade, certainement pas dans un Deadpool, quoique ça pourrait être rigolo. Shang-Chi 2, Quantum Mania, Quantum Mania, mais
dans le cas Kang où en plus, ce qui se passe dans Loki et ce qui se passe dans Strange, c'est pareil.
Tout à fait, ouais.
Quantum Mania, mais sinon, à part ça, non, j'ai pas d'autres idées.
C'est vrai qu'il y a la saison 2 de Loki aussi, qu'il faut pas perdre de vue sur cette thématique-là, ou en tout cas sur une thématique approchante, et qui pourrait bien faire avancer les choses aussi. Donc, Thor, je sais pas dans quelle mesure ils vont utiliser le multivers plus que comme un artifice. Je suis même pas sûr qu'on en voit, tu vois, je sais pas.
Ça me ferait marrer qu'on ait une apparition furtive de Loki, ou d'un Loki, ou
On en reparlera quand on spéculera sur Thor le mois prochain, mais honnêtement, moi, je serais vraiment surpris qu'il n'y ait pas Loki dans Thor. Hein. Je pense qu'il y aura quelque part, à mon avis, à un moment, un petit peu de fanservice de ce côté-là, peut-être dans une scène post-gène, hein, peut-être pas dans le film.
Ou même dans les flashbacks. Hein.
ou dans les flashbacks, effectivement, mais il y aura probablement une mention de Loki. Mais en revanche, je parlais de ça parce que, du coup, comme dans les comics autour de Gore, il y a cette notion qu'il y a plusieurs Thor qui combattent simultanément Gore. Aller les chercher dans le multivers, ça pourrait avoir du sens. Ça raccrocherait les wagons avec le reste. Donc, il y a moyen aussi d'exploiter le pan multivers dans ce Thor qui arrive. Là. Donc, bon, on sera fixé assez vite. Hein, c'est dans 2 mois. Donc, ça va être là assez rapidement. Mais donc, voilà. Pas de résolution, donc des incursions dans un Doctor Strange 3, mais plutôt. Et puis, on verra comment ça progresse aussi côté série télé, même si pour le coup, là non plus, je vois pas trop de rapport avec le multivers dans les séries télé qu'on nous annonce. Ça a l'air plutôt d'être globalement, en dehors de Loki, des setups pour d'autres univers au sein du MCU. Donc voilà, je sais pas si vous voulez rajouter un truc sur Doctor Strange.
Je pense que j'ai fait le tour, là.
J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire pour le 3, en fait, c'est tout.
Ouais, on a encore le temps, là, si tu veux.
Est-ce qu'on aura Sam Raimi ? Oh oui, mais là, c'est bon pour 4 ans, hein, mais est-ce qu'on aura un Sam Raimi encore à la main ou pas ?
Oh si, je pourrais rajouter un petit rant pour la fin.
Vas-y, allez, rant, vas-y, boule ta haine, vas-y.
Parce que tu parles de Sam Raimi, justement, et ce qui m'a fait énormément rire, c'est de voir tout Internet s'enflammer quand le film est sorti. Mm-hmm. En mode Sam Raimi, sauveur du MCU, qui apporte enfin l'art au blockbuster. C'est notre paladin du cinéphile. Pour que 24 heures après qu'il ait dit, je sais plus quel commentaire.
Mais il a dit que pour lui, le meilleur Spider-Man, c'était No Way Home ou un truc dans
voilà,
le genre.
Ouais, c'est ça.
Ils ont chié dessus.
En 24 heures, le mec est passé de sauveur de l'humanité à pire merde que la Terre a jamais portée. Changez rien, Internet.
Changez rien, les Debs.
Allez, on passe au courrier des auditeurs.
Excuse me, Mr. Stark. Christine Everhart, Vanity Fair Magazine. Can I ask you a couple of questions?
Hi.
Hi.
Yeah.
It's okay?
Okay, go.
Le courrier avec deux questions ce mois-ci. Une question de Uji ou Uge, je sais pas comment on prononce, qui nous demande quand se déroule Eternals par rapport à Spider-Man No Way Home et Doctor Strange 2. Eh ben, c'est une très bonne question. Eternals est assez vague, en fait, finalement. Bon, le problème d'Eternals aussi, c'est que ça s'étend sur une longue période et donc on sait pas trop bien à quel moment ça se termine dans la chronologie du MCU. Spider-Man No Way Home, ça embraye directement sur la suite de Far From Home, donc c'est relativement direct. Et puis Doctor Strange 2 enchaîne, lui, visiblement directement après No Way Home, donc il y a une certaine continuité de ce côté-là, mais Eternals, c'est vrai que je sais pas, je pense que ça n'a pas été spécifié pour justement se laisser la porte ouverte et de la marge de manœuvre au cas où on abandonnerait les Eternals, on n'en ferait pas un deuxième, et du coup, bah, les personnages tomberaient un petit peu à l'eau, donc je sais pas trop ce que vous en pensez, moi j'ai pas de réponse à apporter à cette question, en tout cas.
Pour l'instant, je le placerai après, en fait.
Après, bah, de toute façon, après Infinity War Endgame, ça c'est sûr, mais...
Non, je le placerai après Doctor Strange, en fait.
Ah oui, carrément. Ouais.
Je le place beaucoup plus loin, à mon sens, le place beaucoup plus loin dans la timeline, en fait.
C'est pas impossible, ouais.
Parce que tu peux pas avoir un événement aussi important avec quand même un Celestial qui sort du sol.
Oui, il y a ça, mais bon, après...
Sans
comment
intervention,
tu...
Pff,
ouais,
donc...
Mais comment tu glisses ça narrativement dans un Doctor Strange qui est déjà bien packed, bien compact, je sais pas. Donc, Thomas, je passe à une idée.
Je pense qu'il est après...
Bah, non, j'ai pas... Alors, surtout qu'on peut ça, Eternals, moi, je l'ai vu qu'une seule fois. Mm-hmm. Et il me semble que le seul repère temporel qu'on a quand ils sont dans le présent, entre guillemets, on va dire, c'est le blip, en fait, c'est le seul repère qu'on a, non ? Et après, glisser, parce qu'effectivement, le Celestial qui arrive, le glisser, alors c'est pas infaisable non plus, hein, parce que y a dans Hawkeye où ils te disent j'aime pas trop ce qu'ils ont fait de la Statue de la Liberté, ça peut être une mention dans un...
Ouais, tout
dans
à fait.
Un dialogue. Ouais. Mais non, là, comme ça, c'est une super question, mais je saurais pas dire non plus,
moi non plus
où ça se passe.
Donc,
je serais plutôt d'avis à pencher comme Fox, c'est-à-dire que ça se passe après.
Ok. Ouais. Moi, je pense que c'est pas spécifié justement pour pouvoir se permettre de changer un petit peu la donne et que, effectivement, ce qui colle le mieux pour le moment, c'est après tout ça, puisqu'il n'y a pas de mention du Celestial, qui est quand même un événement relativement majeur. Donc, ouais. Jeff qui nous demande où peut-être Vision Blanc, si un perso pouvait calmer Wanda, c'est bien lui.
Techniquement, c'est pas Vision, en fait. C'est une reconstruction de Vision. Ils ont bloqué sa mémoire en grande partie. La discussion avec le Vision recréé par Wanda lui permet d'accéder à ses souvenirs et à la majorité de sa mémoire, mais ce personnage-là, enfin, il n'a pas la même personnalité, il n'a pas l'évolution. Donc, il doit réapprendre qui il est. Et est-ce qu'il a de l'attachement pour Wanda à ce moment-là ? vu la timeline resserrée, est-ce qu'il n'est pas juste perdu, en fait?
Non, mais moi, je pense que, voilà, enfin, il n'y a même pas à savoir si c'est vraiment Vision ou pas vraiment Vision. Je pense que la fin de WandaVision laisse penser que c'est Vision, mais qui doit se redécouvrir, en quelque sorte, c'est mais ça. Qu'il a tous les éléments en lui pour pouvoir redevenir Vision, enfin, le Vision original. Mais maintenant, il a l'air, effectivement, de partir dans une espèce de quête initiatique, en tout cas, de quête prospective pour en apprendre plus sur lui-même, j'imagine, découvrir le monde. Et encore une fois, je pense que voilà, on se laisse une porte ouverte avec un personnage quand même relativement surpuissant pour le réutiliser ou pas quand on en a besoin. Et je l'aurais pas vu narrativement débarquer dans un Doctor Strange 2 parce que bah, déjà, ça aurait voulu. Enfin, il y aurait eu un arc supplémentaire et une complexification d'un arc qui n'en avait pas besoin. Et puis surtout, bah, c'est, on sort un petit peu du cadre de l'horreur en fait. Du coup, on part dans un truc un peu plus science-fiction. Je vois vraiment pas à quoi il aurait pu servir. Alors oui, effectivement, si on prend les choses de manière très premier degré, oui, c'était probablement un des personnages qui pouvait lutter contre elle, bien que, enfin, on n'en est pas sûr non plus, hein, Wanda a quand même montré qu'elle était OP, comme on dit, donc je suis pas certain que Vision aurait vraiment apporté quelque chose de très intéressant au scénar, et on peut très facilement expliquer son absence sans que ce soit vraiment gênant, donc voilà, moi je pense qu'il est, il est en train de bourlinguer à travers le monde, ou voire à travers l'univers, en train d'en apprendre plus sur lui et sur les choses qui l'entourent, et qu'on le reverra peut-être dans Armor Wars, ou dans Ironheart, ou dans un truc un peu plus orienté machine et avec une connexion de près ou de loin avec Stark, je pense que c'est plus approprié.
C'est quand tu disais, il est en train de bourlinguer, je l'imaginais en,
avec son petit
en étudiant Erasmus. Non, même pas en étudiant Erasmus, elle vit dans une auberge de jeunesse.
Tout est possible. Mais donc voilà, donc pour répondre à ta question, j'imagine que c'était le sens de ta question, hein, c'était de se demander pourquoi on le voyait pas dans Doctor Strange 2. Voilà, que ce soit narrativement ou d'un point de vue purement réel, il y a plusieurs raisons et je pense qu'ils ont fait le bon choix en n'utilisant pas le White Vision dans Doctor Strange 2.
Are you talking about a time machine?
No, of course not. No, not a time machine. This is more like a time machine.
Et c'est déjà l'heure de notre Quantum Trip. On fait un retour sur l'épisode 29 où, hasard du calendrier, eh bien, on parlait du premier Doctor Strange qui venait de sortir, qu'on venait de voir. On s'interrogeait du coup sur la timeline du film par rapport au reste du MCU, sur l'arrivée aussi de la Time Stone. Est-ce qu'on va s'en servir dans les films qui viennent? Et puis, bon, finalement, elle a surtout servi de MacGuffin dans Infinity War et Endgame. On se demandait même à un moment si Dormammu allait pas être le Big Bad de la phase 4. Bon, c'est toujours possible, mais pour le moment, il y a rien qui pointe dans cette direction-là. Et on parlait déjà de Mephisto, même si c'était assez bref. Je vous propose d'écouter un petit extrait très vite, et puis on se retrouve juste après.
Donc, quand Kevin Feige disait que Doctor Strange était un film important et pour la phase 3 et pour la phase 4, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Est-ce que ça voudrait dire que Dormammu pourrait devenir une espèce de Big Bad de la phase 4 et des suivantes, comme les Thanos en ce moment, depuis le début de la phase 1 hein?
Je ne sais pas si Dormammu aurait les épaules pour devenir le Big Bad futur de tout le MCU.
En tout cas, on le reverra, ça c'est sûr. Enfin, je serais vraiment très déçu qu'on se limite à cet échange qu'on a vu dans le premier film.
Non, on va le retrouver. On va le retrouver au même titre qu'on pourrait retrouver Mephisto ou d'autres personnages comme ça, parce qu'ils sont liés à Doctor Strange. Par contre, je pense que l'œil d'Agamotto, donc qui est la Time Stone, puisque Benedict Wong, dans son rôle de Wong, lui dit carrément, en fait, c'est une Infinity Gem, donc...
Alors, c'est pour être précis, l'œil d'Agamotto renferme la Time Stone,
oui,
en fait.
Oui, voilà, il renferme la Time Stone, oui, c'est...
Un peu comme
exactement le Tesseract
renfermé, voilà.
Oui, tout à fait. Ouais. Mais le truc, c'est que la pierre du temps, et on voit bien l'utilisation du pouvoir du temps de Strange, il peut remonter le temps, même si lui est pas capable de le faire dans une mesure incroyable. La manière dont il combat Dormammu, c'est avec une boucle, une simple boucle. Peut-être que Thanos pourrait se servir de l'Infinity Stone, donc de la Time Stone, pour rebooter une partie de des événements.
Donc voilà, Monty Fox, petite prévision bien vue sur le côté Thanos va reboot un événement de l'histoire avec la Time Stone. C'est ce qui s'est passé avec Vision, donc bien vu.
C'est passé Vision, mais c'était prévisible parce que il y a tellement de personnages, il y a tellement de trucs. Quand on a su après que Vision avait la Soul Stone, bon, bah, c'était grillé, quoi. C'était Il fallait qu'il réinverse quelque chose. Je pensais qu'il aurait inversé une défaite ou sa mort. Je pensais pas qu'il allait littéralement inverser la mort de Vision après la scène dramatique ouais. qu'on a eue pour le retuer derrière.
Au final, il l'inverse en quelque sorte sa mort avec la Reality Stone quand il est dans le Celestial. Là, j'ai déjà oublié Nowhere, c'est ça. Ouais. Donc il y a déjà un peu ce côté-là aussi, effectivement. Mais oui, non, c'était plutôt bien vu. Pour le coup, on avait pas trop mal visé. Et je dois dire que finalement, pour Doctor Strange 2, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais on avait quand même plutôt vu juste sur le, on va dire, la trame principale. On avait bien anticipé le fait que... Oui, bah, Thomas aussi, je pense, avait bien anticipé le fait que Wanda allait être...
Non, mais sur le fait
être,
que très tôt, t'as dit que Wanda serait la méchante.
Ouais,
en fait.
Mais ça, je sais pas pourquoi j'avais senti arriver, en fait, le côté, on va très très vite, surtout si le film fait 2 heures, t'as pas le temps de tergiverser. Et en fait, ce qui est plutôt malin, c'est qu'on a une scène dans le film qui a été utilisée d'ailleurs dans le trailer, où on la voit à côté de Wong, et on a vraiment l'impression, quand tu vois la scène hors contexte, qu'elle est en train de se battre avec Wong, enfin, en compagnie de Wong, en fait, du côté de Wong. Et en fait, quand tu vois le film, ben non, elle est juste au milieu de la pièce, en fait, qui est cette espèce de trône, comme elle l'appelle, et Wong, il est juste à côté, mais l'effet de caméra fait qu'on a l'impression qu'ils se battent côte à côte, alors qu'en fait, ils se battent, enfin, ils sont potentiellement sur le point de se battre l'un contre l'autre. Donc, j'avais trouvé ça plutôt malin, et puis, on avait anticipé quand même pas mal de choses, donc je suis assez content de nous, on verra ça dans quoi, maintenant, une 60aine d'épisodes, quand on réécoutera celui-ci, si on est encore en vie. Mais voilà, non, je suis plutôt satisfait de nos prévisions sur Doctor Strange 2, et à l'époque, déjà, sur Doctor Strange, et même sur la suite, on avait déjà envie des trucs concrets qui se sont réalisés. Donc voilà, on peut quand même, on se moque souvent de nos prévisions quand on a l'occasion quand même de souligner qu'on n'est pas trop mauvais tout le temps. Bah, c'est plutôt cool, non?
Bah carrément. Surtout que j'en dis beaucoup des merdes, alors pointer quand j'en dis pas une, c'est plutôt agréable.
Et c'est la fin de ce 89e épisode des Clairvoyants. On espère qu'on vous en aura appris un peu plus sur le personnage de Gore, qui arrive tout bientôt donc dans Thor Love and Thunder. Le mois prochain, on fera un focus sur Mighty Thor, qui est donc la version incarnée dans le MCU par Natalie Portman. On vous fera un petit brief de ce qu'elle est dans les comics, comment elle est arrivée là, et on verra après si on pourra comparer avec ce qui se passe dans le film. On vous rappelle l'existence du forum MCU et puis des sous-forums avec toutes les séries et les films Marvel. Si vous voulez venir en parler avec nous, c'est sur geekzone.fr. Il y a aussi un Discord, il y a des bouquins dans les coulisses du Marvel Cinematic Universe chez Third Editions, tome 1 et tome 2, si vous voulez en apprendre un peu plus sur les films et écouter mes analyses passionnantes sur le sujet, enfin lire plutôt mes analyses passionnantes sur le sujet, enfin passionnantes, c'est à débattre. Et puis je crois que j'ai fait le tour. Vous avez un truc à rajouter?
Il y a un excellent bouquin chez Third Editions sur Godzilla, co-écrit par Archeon.
C'est vrai,
très bien.
J'y pense jamais parce qu'évidemment c'est un petit peu horrible. MCU, mais oui, c'est vrai.
Puis c'est chez le même éditeur qui a fait un bouquin qui s'appelle Les Parchemins de Tamriel, si j'ai pas de bêtises.
Putain, comment ça se passe,
oui,
là?
Oui, mais bon... Allez, j'aime moindre d'huile. Moins.
On se retrouve le mois prochain. D'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas le Patreon, patreon.com/geekzonefr. Si vous voulez nous soutenir dans la production des podcasts, eh bien, c'est là qu'il faut vous rendre. Des bisous à tous. Ciao.
Des bisous.
Bisous tout le monde.
Podcast signé Faskill. Faskill.com.
Torréfaction, c'est votre rendez-vous hebdomadaire sur geekzone.fr avec une sélection de l'actualité proposée par Caféine et Fastkill. Gaming, culture, software et tech ont fait le tri dans les news de la semaine pour vous proposer un récap digeste d'une demi-heure, histoire de ne rien louper des infos essentielles. Torréfaction, c'est votre rendez-vous avec l'actu geek tous les vendredis matin à 8h sur geekzone.fr.